Nous entendîmes le canon. On se battait près de Meaux. On racontait que des Uhlans avaient été capturés près de Lagny, à 15 kilomètres de chez nous. Tandis que ma tante parlait d'une amie enfuie dès les premiers jours, après avoir enterré dans son jardin des pendules, des boîtes de sardines, je demandais à mon père le moyen d'emporter nos vieux livres. C'est ce qu'il me coûtait le plus de perdre. Enfin, au moment où nous nous apprêtions à la fuite, les journaux nous apprirent que c'était inutile. Mes sœurs, maintenant, allaient à J porter les paniers de poire aux blessés. Elles avaient découvert un dédommagement médiocre, il est vrai, à tous leurs beaux projets écroulés. Quand elles arrivaient à J, les paniers étaient presque vides. Je devais entrer au lycée Henri IV, mais mon père préféra me garder encore un an à la campagne. Ma seule distraction de ce morne hiver fut de courir chez notre marchande de journaux pour être sûr d'avoir un exemplaire du Mot, journal qui me plaisait et paraissait le samedi. Ce jour-là, je n'étais jamais levé tard. Mais le printemps arriva, qu'égayèrent mes premières incartades. Sous prétexte de quête, ce printemps, plusieurs fois, je me promenais en dimanche, une jeune personne à ma droite. Je tenais le tronc, elle, la corbeille d'un cygne. Dès la seconde quête, des confrères m'apprirent à profiter de ces journées libres où l'on me jetait dans les bras d'une petite fille. Dès lors, nous nous empressions de recueillir le matin le plus d'argent possible, remettions à midi notre récolte à la dame patronesse et allions toute la journée polissonner sur les coteaux de Chennevières. Pour la première fois, j'eus un ami. J'aimais à quêter avec sa sœur. Pour la première fois, je m'entendais avec un garçon aussi précoce que moi, admirant même sa beauté, son effronterie. Notre mépris commun pour ceux de notre âge nous rapprochait encore. Nous seuls, nous jugions capables de comprendre les choses. Et enfin, nous seuls, nous trouvions dignes des femmes. Nous nous croyions des hommes. Par chance, nous n'allions pas être séparés. René allait au lycée Henri IV et je serais dans sa classe en troisième. Il ne devait pas apprendre le grec. Il me fit cet extrême sacrifice de convaincre ses parents de le lui laisser apprendre. Ainsi, nous serions toujours ensemble. Comme il n'avait pas fait sa première année, c'était s'obliger à des répétitions particulières. Les parents de René n'y comprirent rien, qui, l'année précédente, devant ses supplications, avait consenti à ce qu'il n'étudiât pas le grec. Ils y virent l'effet de ma bonne influence. Et s'ils supportaient ses autres camarades, j'étais du moins le seul ami qu'ils approuvassent. Pour la première fois, nul jour des vacances de cette année ne me fut pesant. Je connus donc que personne n'échappe à son âge et que mon dangereux mépris s'était fondu comme glace dès que quelqu'un avait bien voulu prendre garde à moi de la façon qui me convenait. Nos communes avances raccourcirent de moitié la route que l'orgueil de chacun de nous avait à faire. Le jour de la rentrée des classes, René me fut un guide précieux. Avec lui, tout me devenait plaisir, et moi qui, seul, ne pouvais avancer d'un pas, j'aimais faire à pied, deux fois par jour, le trajet qui sépare Henri IV de la gare de la Bastille, où nous prenions notre train. 3 ans passèrent ainsi, sans autre amitié, sans autre espoir que les polissonneries du jeudi, avec les petites filles que les parents de mon ami nous fournissaient innocemment, invitant ensemble à goûter les amis de leurs fils et les amies de leurs filles, menu faveur que nous dérobions et qu'elles nous dérobaient sous prétexte de jeux à gages. La belle saison venue, mon père aimait à nous en emmener, mes frères et moi, dans de longues promenades. Un de nos buts favoris était Ormesson, et de suivre le Morbras, rivière large d'1 mètre, traversant des prairies où poussent des fleurs qu'on ne rencontre nulle part ailleurs et dont j'ai oublié le nom. Des touffes de cresson ou de menthe cachent aux pieds qui se hasardent l'endroit où commence l'eau. La rivière charrie au printemps des milliers de pétales blancs et roses. Ce sont les aubépines. Un dimanche d'avril 1917, comme cela nous arrivait souvent, nous prîmes le train pour la Varenne, d'où nous devions nous rendre à pied à Ormesson. Mon père me dit que nous retrouverions à la Varenne des gens agréables, les Grangiers. Je les connaissais pour avoir vu le nom de leur fille Marthe dans le catalogue d'une exposition de peinture. Un jour, j'avais entendu mes parents parler de la visite d'un monsieur Grangier. Il était venu avec un carton empli des œuvres de sa fille âgée de 18 ans. Marthe était malade. Son père aurait voulu lui faire une surprise, que ses aquarelles figurassent dans une exposition de charité dont ma mère était présidente. Ces aquarelles étaient sans nulle recherche, on y sentait la bonne élève de cours de dessin, tirant la langue, léchant les pinceaux. Sur le quai de la gare de la Varenne, les Grangiers nous attendaient. Monsieur et Madame Grangier devaient être du même âge, approchant de la cinquantaine. Mais Madame Grangier paraissait l'aînée de son mari. Son inélégance, sa taille courte, firent qu'elle me déplut au premier coup d'œil. Au cours de cette promenade, je devais remarquer qu'elle fronçait souvent les sourcils, ce qui couvrait son front de rides auquel il fallait une minute pour disparaître. Afin qu'elle eût tous les motifs de me déplaire, sans que je me reprochasse d'être injuste, je souhaitais qu'elle employât des façons de parler assez communes. Sur ce point, elle me déçut. Le père, lui, avait l'air d'un brave homme, ancien sous-officier, adoré de ses soldats. Mais où était Marthe? Je tremblais à la perspective d'une promenade sans autre compagnie que celle de ses parents. Elle devait venir par le prochain train dans un quart d'heure, expliqua Madame Grangier, n'ayant pu être prête à temps. Son frère arriverait avec elle. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. « Attends bien que le train s'arrête !» lui cria sa mère. « Cette imprudente me charma. » Sa robe, son chapeau, très simple, prouvait son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçon qui paraissait avoir 11 ans. C'était son frère, enfant pâle, aux cheveux d'albinos et dont tous les gestes trahissaient la maladie. Sur la route, Marthe et moi marchions en tête. Mon père marchait derrière, entre les Grangiers. Mes frères, bâillaient avec ce nouveau petit camarade chétif à qui l'on défendait de courir. Comme je complimentais Marthe sur ses aquarelles, elle me répondit modestement que c'était des études. Elle n'y attachait aucune importance. Je jugeais bon, pour la première fois, de ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de fleurs ridicules. Sous son chapeau, elle ne pouvait bien me voir, mais moi, je l'observais. « Vous ressemblez peu à Madame votre mère, lui dis-je. » C'était un madrigal. « On me le dit souvent, mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. » Voulant dissiper le malaise de cette réponse pénible et ne comprenant pas que pénible, elle ne pouvait l'être que pour moi, puisque heureusement, Marthe ne voyait point sa mère avec mes yeux, je lui dis « Vous avez tort de vous coiffer de la sorte, les cheveux lisses vous iraient mieux. » Je restais terrifié, n'ayant jamais dit pareille chose à une femme. Je pensais à la façon dont j'étais coiffé, moi. « Vous pourrez le demander à maman, comme si elle avait besoin de se justifier. D'habitude, je ne me coiffe pas si mal, mais j'étais déjà en retard. » Je craignais de manquer le second train. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'ôter mon chapeau. Quelle fille était-ce donc, pensais-je, pour admettre qu'un gamin la querelle à propos de ses mèches? J'essayais de deviner ses goûts en littérature. Je fus heureux qu'elle connût Baudelaire et Verlaine, charmé de la façon dont elle aimait Baudelaire, qui n'était pourtant pas la mienne. J'y discernais une révolte. Ses parents avaient fini par admettre ses goûts. Son fiancé, dans ses lettres, lui parlait de ce qu'il lisait, et s'il lui conseillait certains livres, il lui en défendait d'autres. Il lui avait défendu les Fleurs du Mal. Désagréablement surpris d'apprendre qu'elle était fiancée, je me réjouis de savoir qu'elle désobéissait à un soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux de sentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Après la première surprise désagréable, je me félicitais de son étroitesse, d'autant mieux que j'eusse craint, s'il avait lui aussi goûté les Fleurs du Mal, que leur futur appartement ressemblât à celui de la mort des amants. Je me demandais ensuite ce que cela pouvait bien me faire. Son fiancé lui avait aussi défendu les académies de dessin. Moi, qui n'y allais jamais, je lui proposais de l'y conduire, ajoutant que j'y travaillais souvent. Mais, craignant ensuite que mon mensonge fût découvert, je la priai de n'en point parler à mon père. Il ignorait, dis-je, que je manquais des cours de gymnastique pour me rendre à la Grande Chaumière, car je ne voulais pas qu'elle pût se figurer que je cachais l'académie à mes parents parce qu'ils me défendaient de voir des femmes nues. J'étais heureux qu'il se fît secret entre nous, et moi, timide, me sentais déjà tyrannique avec elle. J'étais fier aussi d'être préféré à la campagne, car nous n'avions pas encore fait allusion au décor de notre promenade. Quelquefois, ses parents l'appelaient « Regarde, Marthe, à ta droite, comme les coteaux de Chennevières sont jolis !» Ou bien son frère s'approchait d'elle et lui demandait le nom d'une fleur qu'il venait de cueillir. Elle le raccordait d'attention distraite, juste assez pour qu'il ne se fâchasse point. Nous nous assîmes dans les prairies d'Ormesson. Dans ma candeur, je regrettais d'avoir été si loin et d'avoir tellement précipité les choses. Après une conversation moins sentimentale, plus naturelle, pensais-je, je pourrais éblouir Marthe et m'attirer la bienveillance de ses parents en racontant le passé de ce village. Je m'en abstins. Je croyais avoir des raisons profondes et pensais qu'après tout, ce qui s'était passé, une conversation tellement en dehors de nos inquiétudes communes ne pourrait que rompre le charme. Je croyais qu'il s'était passé des choses graves. C'était d'ailleurs vrai, simplement, je le sus dans la suite, parce que Marthe avait faussé notre conversation dans le même sens que moi. Mais moi, qui ne pouvais me rendre compte, je me figurais lui avoir adressé des paroles significatives. Je croyais avoir déclaré mon amour à une personne insensible. J'oubliais que M. et Mme Grangier eussent pu entendre sans le moindre inconvénient tout ce que j'avais dit à leur fille. Mais moi, aurais-je pu le lui dire en leur présence? « Marthe ne m'intimide pas, me répétais-je. Donc, seuls ses parents et mon père m'empêchent de me pencher sur son cou et de l'embrasser. Profondément en moi, un autre garçon se félicitait de ces troubles faits. Celui-ci pensait « Quelle chance que je ne me trouve pas seul avec elle, car je n'oserais pas davantage l'embrasser et je n'aurais aucune excuse. » Ainsi triche le timide. Nous reprenions le train à la gare de Sucy. Ayant une bonne demi-heure à attendre, nous nous assîmes à la terrasse d'un café. Je dus subir les compliments de Madame Grangier. Il m'humiliait. Il rappelait à sa fille que je n'étais encore qu'un lycéen qui passerait son baccalauréat dans un an. Marthe voulut boire de la grenadine. J'en commandais aussi. Le matin encore, je me serais cru déshonoré en buvant de la grenadine. Mon père n'y comprenait rien. Il me laissait toujours servir les apéritifs. Je tremblais qu'il le plaisantât sur ma sagesse. Il le fit, mais à mon couvert, de façon que Marthe ne devina pas que je buvais de la grenadine pour faire comme elle. Arrivés à F, nous dîmes adieu au grangier. Je promis à Marthe de lui porter le jeudi suivant la collection du journal Le Mot et Une saison en enfer. Encore un titre qui plairait à mon fiancé, elle riait. Voyons, Marthe, dit fronçant les sourcils sa mère qu'un tel manque de soumission choquait toujours. Mon père et mes frères s'étaient ennuyés. Oh, qu'importe, le bonheur est égoïste. Le lendemain, au lycée, je n'éprouvais pas le besoin de raconter à René, à qui je disais tout, ma journée du dimanche. Mais je n'étais pas d'humeur à supporter qu'il me raillât de n'avoir pas embrassé Marthe en cachette. Autre chose m'étonnait, c'est qu'aujourd'hui je trouvais René moins différent de mes camarades. Ressentant de l'amour pour Marthe, j'en ôtais à René, à mes parents, à mes sœurs. Je me promettais bien cet effort de volonté de ne pas venir la voir avant le jour de notre rendez-vous. Pourtant, le mardi soir, ne pouvant attendre, je sus trouver à ma faiblesse de bonnes excuses qui me permissent de porter après dîner le livre et les journaux. Dans cette impatience, Marthe verrait la preuve de mon amour, disais-je, et si elle refuse de la voir, je saurais bien l'y contraindre. Pendant un quart d'heure, je courus comme un fou vers jusqu'à sa maison. Alors, craignant de la déranger pendant son repas, j'attendis en nage 10 minutes devant la grille. Je pensais que pendant ce temps, mes palpitations de cœur s'arrêteraient. Elles augmentaient au contraire. Je manquais tourner bride, mais depuis quelques minutes, d'une fenêtre voisine, une femme me regardait curieusement, voulant savoir ce que je faisais, réfugié contre cette porte. Elle me décida. Je sonnai. J'entrai dans la maison, je demandai à la domestique si madame était chez elle. Presque aussitôt, madame Grangier parut dans la petite pièce où l'on m'avait introduit. Je sursautai, comme si la domestique eût dû comprendre que j'avais demandé « madame » par convenance et que je voulais dire « mademoiselle ». Rougissant, je priai madame Grangier de m'excuser de la déranger à pareille heure, comme s'il eût été 1 heure du matin. Ne pouvant venir jeudi, j'apportai le livre et les journaux à sa fille. « Ah, oh, cela tombe à merveille !» me dit madame Grangier, « car Marthe n'aurait pu vous recevoir. Son fiancé a obtenu une permission 15 jours plus tôt qu'il ne pensait. Il est arrivé hier et Marthe dîne ce soir chez ses futurs beaux-parents. » Je m'en allais donc, et puisque je n'avais plus de chance de la revoir jamais, croyais-je, m'efforçais de ne plus penser à Marthe et, par cela même, ne pensant qu'à elle. Pourtant, un mois après, un matin, sautant de mon wagon à la gare de la Bastille, je la vis qui descendait d'un autre. Elle allait choisir dans des magasins différentes choses en vue de son mariage. Je lui demandai de m'accompagner jusqu'à Henri IV. « Tiens, dit-elle, l'année prochaine, quand vous serez en seconde, vous aurez mon beau-père pour professeur de géographie. » Vexée qu'elle me parlât à étude comme si aucune autre conversation n'eût été de mon âge, je lui répondis aigrement, oui, que ce serait assez drôle. Elle fronça les sourcils. Je pensais à sa mère. Nous arrivions à Henri IV, et ne voulant pas la quitter sur ces paroles que je croyais blessantes, je décidai d'entrer en classe 1 heure plus tard après le cours de dessin. Je fus heureux quand, en cette circonstance, Marthe ne montra pas de sagesse, ne me fit aucun reproche, et plutôt sembla me remercier d'un tel sacrifice, en réalité nul. Je lui fus reconnaissant qu'en échange, elle ne me proposa point de l'accompagner dans ses courses, mais qu'elle me donna son temps comme je lui donnais le mien. Nous étions maintenant dans le jardin du Luxembourg. 9 heures sonnèrent à l'horloge du Sénat. Je renonçais au lycée. J'avais dans ma poche, par miracle, plus d'argent que n'en a l'habitude un collégien de 2 ans, ayant la veille vendu mes timbres-poste les plus rares à la bourse aux timbres qui se tient derrière le guignol des Champs-Élysées. Au cours de la conversation, Marthe m'ayant appris qu'elle déjeunait chez ses beaux-parents, je décidai de la résoudre à rester avec moi. La demie de 9 heures sonnait. Marthe sursauta, point encore habituée à ce qu'on l'abandonnât pour elle tous ses devoirs de classe. Mais voyant que je restais sur ma chaise de fer, elle n'eut pas le courage de me rappeler que j'aurais dû être assis sur les bancs de Henri IV. Nous restions immobiles. Ainsi doit être le bonheur. Un chien sauta du bassin et se secoua. Marthe se leva comme quelqu'un qui, après la sieste et le visage encore enduit de sommeil, secoue ses rêves. Elle faisait avec ses bras des mouvements de gymnastique. J'en augurais mal pour notre entente. « Ces chasses sont trop dures, » me dit-elle, comme pour s'excuser d'être debout. Elle portait une robe de foulard, chiffonnée depuis qu'elle s'était assise. Je ne pus m'empêcher d'imaginer les dessins que le canage imprime sur la peau. « Allons, allons, accompagnez-moi dans les magasins, puisque vous êtes décidée à ne pas aller en classe, » dit Marthe, faisant pour la première fois allusion à ce que je négligeais pour elle. Je l'accompagnais dans plusieurs maisons de lingerie, l'empêchant de commander ce qui lui plaisait et ne me plaisait pas, par exemple, évitant le rose qui m'importune et qui était sa couleur favorite. Après ses premières victoires, il fallait obtenir de Marthe qu'elle ne déjeunât pas chez ses beaux-parents. Ne pensant pas qu'elle pouvait leur mentir pour le simple plaisir de rester en ma compagnie, je cherchais ce qui la déterminerait à me suivre dans l'école buissonnière. Elle rêvait de connaître un bar américain. Elle n'avait jamais osé demander à son fiancé de l'y conduire. D'ailleurs, il ignorait les bars. Je tenais mon prétexte. À son refus, empreint d'une véritable déception, je pensais qu'elle viendrait. Au bout d'une demi-heure, ayant usé de tout pour la convaincre et n'insistant même plus, je l'accompagnais chez ses beaux-parents, dans l'état d'esprit d'un condamné à mort, espérant jusqu'au dernier moment qu'un coup de main se fera sur la route du supplice. Je voyais approcher la rue, sans que rien ne se produisît. Mais, soudain, Marthe, frappant à la vitre, arrêta le chauffeur du taxi devant un bureau de poste. Elle me dit « Attendez-moi une seconde, je vais téléphoner à ma belle-mère que je suis dans un quartier trop éloigné pour arriver à temps. » Au bout de quelques minutes, n'en pouvant plus d'impatience, j'avisais une marchande de fleurs et je choisis une à une des roses rouges dont je fis faire une botte. Je ne pensais pas tant au plaisir de Marthe qu'à la nécessité pour elle de mentir encore ce soir pour expliquer à ses parents d'où venaient les roses. Notre projet, lors de la première rencontre, d'aller à une académie de dessin, le mensonge du téléphone qu'elle répéterait ce soir à ses parents, mensonge auquel s'ajouterait celui des roses, m'était des faveurs plus douces qu'un baiser. Car ayant souvent embrassé sans grand plaisir des lèvres de petites filles et oubliant que c'était parce que je ne les aimais pas, je désirais peu les lèvres de Marthe, tandis qu'une telle complicité m'était restée jusqu'à ce jour inconnu. Marthe sortait de la poste rayonnante après le premier mensonge. Je donnais au chauffeur l'adresse d'un bar de la rue d'Aunou. Elle s'extasiait, comme une pensionnaire, sur la veste blanche du barman, la grâce avec laquelle il secouait les gobelets d'argent, les noms bizarres ou poétiques des mélanges. Elle respirait de temps en temps les roses rouges dont elle se promettait de faire une aquarelle, qu'elle me donnerait en souvenir de cette journée. Je lui demandai de me montrer une photographie de son fiancé. Je le trouvais beau. Sentant quelle importance elle attachait à mes opinions, je poussai l'hypocrisie jusqu'à lui dire qu'il était très beau, mais d'un air peu convaincu, pour lui donner à penser que je le lui disais par politesse. Ce qui, selon moi, devait jeter le trouble dans l'âme de Marthe et, de plus, m'attirer sa reconnaissance. Mais l'après-midi, il fallut songer au motif de son voyage. Son fiancé, dont elle savait les goûts, s'en était remis complètement à elle du soin de choisir leur mobilier. Mais sa mère voulait à toute force la suivre. Marthe, enfin, en lui promettant de ne pas faire de folie, avait obtenu de venir seule. Elle devait, ce jour-là, choisir quelques meubles pour leur chambre à coucher. Bien que je me promisse de ne montrer d'extrême plaisir ou déplaisir à aucune des paroles de Marthe, il me fallut faire un effort pour continuer de marcher sur le boulevard d'un pas tranquille qui maintenant ne s'accordait plus avec le rythme de mon cœur. Cette obligation d'accompagner Marthe m'apparut comme une malchance. Il fallait donc l'aider à choisir une chambre pour elle et un autre. Puis, j'entrevis le moyen de choisir une chambre pour Marthe et pour moi. J'oubliais si vite son fiancé qu'au bout d'un quart d'heure de marche, on m'aurait surpris en me rappelant que dans cette chambre, un autre dormirait auprès d'elle. Son fiancé goûtait le style Louis XV. Le mauvais goût de Marthe était autre, elle aurait plutôt versé dans le japonais. Il me fallut donc les combattre tous deux. C'était à qui jouerait le plus vite. Au moindre mot de Marthe, devinant ce qu'il attendait, il me fallait lui désigner le contraire, qui ne me plaisait pas toujours, afin de me donner l'apparence de céder à ses caprices quand j'abandonnerais un meuble pour un autre qui dérangeait moins son œil. Elle murmurait « Lui voulait une chambre rose !» N'osant même plus m'avouer ses propres goûts, elle les attribuait à son fiancé. Je devinais que dans quelques jours, nous les raillerions ensemble. Pourtant, je ne comprenais pas bien cette faiblesse. Si elle ne m'aime pas, pensais-je, quelle raison a-t-elle de me céder, de sacrifier ses préférences et celles de ce jeune homme aux miennes? Je n'en trouvais aucune. La plus modeste était encore de me dire que Marthe m'aimait. Oh, pourtant, j'étais sûr du contraire. Marthe m'avait dit « Au moins, laissons-lui l'étoffe rose. Laissons-lui... Oh. » Rien que pour ce mot, je me sentais prêt de lâcher prise. Mais lui laisser l'étoffe rose équivalait à tout abandonner. Je représentais à Marthe combien ces murs roses gâcheraient les meubles simples que nous avions choisis, et reculant encore devant le scandale, lui conseillait de faire peindre les murs de sa chambre à la chaux. C'était le coup de grâce. Toute la journée, Marthe avait été tellement harcelée qu'elle le reçut sans révolte. Elle se contenta de me dire « En effet, vous avez raison. » À la fin de cette journée éreintante, je me félicitais du pas que j'avais fait. J'étais parvenu à transformer meuble à meuble ce mariage d'amour, ou plutôt d'amourette, en un mariage de raison, et lequel, puisque la raison n'y tenait aucune place, chacun ne trouvant chez l'autre que les avantages qu'offre un mariage d'amour. En me quittant ce soir-là, au lieu d'éviter désormais mes conseils, elle m'avait prié de l'aider les jours suivants dans le choix des autres meubles. Je le lui promis, mais à condition qu'elle me jurât de ne jamais le dire à son fiancé, puisque la seule raison qui put à la longue lui faire admettre ces meubles, s'il avait de l'amour pour Marthe, c'était de penser que tout sortait d'elle, de son bon plaisir, qui deviendrait le leur. Quand je rentrai à la maison, je crus lire dans le regard de mon père qu'il avait déjà appris mon escapade. Naturellement, il ne savait rien. Comment aurait-il pu le savoir ? « Bah, Jacques s'habituera bien à cette chambre, » avait dit Marthe. En me couchant, je me répétais que si elle songeait à son mariage avant de dormir, elle devait ce soir l'envisager de toute autre sorte qu'elle ne l'avait fait les jours précédents. Pour moi, quelle que fût l'issue de cette idylle, j'étais d'avance bien vengé de son Jacques. Je pensais à la nuit de noces, dans cette chambre austère, dans ma chambre. Le lendemain matin, je guettais dans la rue le facteur qui devait m'apporter une lettre d'absence. Il me la remit. Je l'empochai, jetant les autres dans la boîte de notre grille. Procédé trop simple pour ne pas en user toujours. Manquer la classe voulait dire, selon moi, que j'étais amoureux de Marthe. Je me trompais. Marthe ne m'était que le prétexte de cette école buissonnière. Et la preuve, c'est qu'après avoir goûté en compagnie de Marthe au charme de la liberté, je voulus y goûter seul, puis faire des adeptes. La liberté me devint vite une drogue. L'année scolaire touchait à sa fin, et je voyais avec terreur que ma paresse allait rester impunie, alors que je souhaitais le renvoi du collège, un drame, enfin, qui clôtura cette période. À force de vivre dans les mêmes idées, de ne voir qu'une chose, si on la veut avec ardeur, on n'en remarque plus le crime de ses désirs. Certes, je ne cherchais pas à faire de la peine à mon père. Pourtant, je souhaitais la chose qui pourrait lui en faire le plus. Les classes m'avaient toujours été un supplice. Marthe et la liberté avaient achevé de me les rendre intolérables. Je me rendais bien compte que si j'aimais moins René, c'était simplement parce qu'il me rappelait quelque chose du collège. Je souffrais et cette crainte me rendait même physiquement malade dans la niaiserie de mes condisciples. Pour le malheur de René, je lui avais fait trop bien partager mon vice. Aussi, lorsque, moins habile que moi, il m'annonça qu'il était renvoyé de Henri IV, je crus l'être moi-même. Il fallait l'apprendre à mon père, car il me saurait gré de lui dire moi-même, avant la lettre du censeur, lettre trop grave à subtiliser. Nous étions un mercredi. Le lendemain, jour de congé, j'attendis que mon père fût à Paris pour prévenir ma mère. La perspective de 4 jours de trouble dans son ménage l'alarma plus que la nouvelle. Puis je partis au bord de la Marne où Marthe m'avait dit qu'elle me rejoindrait peut-être. Elle n'y était pas. Ce fut une chance. Mon amour, puisant dans cette rencontre une mauvaise énergie, j'aurais pu ensuite lutter contre mon père, tandis que, l'orage éclatant après une journée de vide, de tristesse, je rentrais le front bas comme il convenait. Je revins chez nous un peu après l'heure où je savais que mon père avait coutume d'y être. Il savait donc. Je me promenais dans le jardin, attendant que mon père me fît venir. Mes sœurs jouaient en silence. Elles devinaient quelque chose. Un de mes frères, assez excité par l'orage, me dit de me rendre dans la chambre où mon père s'était étendu. Des éclats de voix, des menaces, m'eussent permis la révolte. Ce fut pire, mon père se taisait. Ensuite, sans aucune colère, avec une voix même plus douce que de coutume, il me dit « Eh bien, que comptes-tu faire maintenant ?» Les larmes qui ne pouvaient s'enfuir par mes yeux comme un essaim d'abeille bourdonnaient dans ma tête. À une volonté, j'eusse pu opposer la mienne, même impuissante, mais devant une telle douceur, je ne pensais qu'à me soumettre. Ce que tu m'ordonneras de faire ? Non, ne mens pas encore. Je t'ai toujours laissé agir comme tu le voulais, continue. Sans doute auras-tu à cœur de m'en faire repentir. Dans l'extrême jeunesse, on est trop enclin, comme les femmes, à croire que les larmes dédommagent de tout. Mon père ne me demandait même pas de larmes. Devant sa générosité, j'avais honte du présent et de l'avenir, car je sentais que quoi que je lui dise, je mentirais. Au moins que ce mensonge le réconforte, pensais-je, en attendant de lui être une source de nouvelles peines. Ou plutôt non, je cherche encore à me mentir à moi-même. Ce que je voulais, c'était faire un travail, guère plus fatigant qu'une promenade, et qui laissa, comme elle, à mon esprit la liberté de ne pas se détacher de Marthe une minute. Je feignis de vouloir peindre et de n'avoir jamais osé le dire. Encore une fois, mon père ne dit pas non, à condition que je continuasse d'apprendre chez nous ce que j'aurais pu apprendre au collège, mais avec la liberté de peindre. Quand les liens ne sont pas encore solides pour perdre quelqu'un de vue, il suffit de manquer une fois un rendez-vous. Et à force de penser à Marthe, j'y pensais de moins en moins. Mon esprit agissait, comme nos yeux agissent avec le papier des murs de notre chambre. Force de le voir, il ne le voit plus. Chose incroyable, j'avais même pris goût au travail. Mais je n'avais pas menti comme je le craignais. Lorsque quelque chose, venu de l'extérieur, m'obligeait à penser moins paresseusement à Marthe, j'y pensais avec amour, avec la mélancolie que l'on éprouve pour ce qui aurait pu être. Bah, me disais-je, c'eût été trop beau. On ne peut à la fois choisir le lit et coucher dedans.